RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
After Marseille,
Nicolas Villas.
Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors on espère que vous allez encore kiffer ce podcast After Marseille. D'ailleurs on attend vos likes, on attend vos commentaires comme d'habitude. Et puis abonnez-vous sur votre appli hein, pour pas manquer les prochains épisodes, pour vous refaire les précédents également si vous le souhaitez. Dans cet épisode, on va se faire le bilan du mercato hivernal de l'OM. Et on y va avec un petit son de circonstance d'Aboutal et son titre, Dernier train pour Marseille.
J'arrive à la gare. Je pense que je vais pouvoir attraper le...
Dernier train pour Marseille. Ce soir j'arrive à toi, babe. Sur la plage au soleil.
Il n'a jamais loupé un train de sa vie. C'est notre correspondant à Marseille, Flo Germain. Salut Flo.
Salut Nico. Salut à tous.
Petit accueil en musique là pour changer un peu là, non?
Ouais, j'aime bien.
Il y a un peu de soleil dans ce son là, j'aime bien en ce moment, on en a besoin, notamment ici à Paris. Et puis il est de retour dans le wagon de l'after, Fabrice Lamperti de la Provence. Salut Fabrice.
Salut Nico, salut Flo, salut à
salut
tous.
Ravi de te retrouver Fabrice, tout va bien?
Un plaisir partagé, écoute, et puis ben, nous on n'a pas de problème de soleil à Marseille.
Ouais bah ça va les
on
gars,
est bien.
Retournez pas le couteau là, c'est bon là. Nous, on n'a pas vu ça depuis 92, on fait ce qu'on peut. D'ailleurs une année que vous aimez bien je crois. Alors le mercato hivernal qui officiellement...
93 quoi.
Ouais je sais mais je pensais 92, moi ça me fait marrer. Le mercato hivernal qui est officiellement terminé en France. Alors il y a eu pas mal de mouvements à l'OM. Dans la colonne des arrivées, on a Guiri qui a été recruté au Stade Rennais, Amar Dedic au RB Salzbourg, Ismaël Benacer prêté avec option d'achat par Milan, Luis Philippe qui est venu d'Alitiad. Dans la colonne des départs, Wai vendu à l'Eintracht, Sternal à Anderlecht, Brassier Ismaël Koné prêté à Rennes, Bamomété à Montpellier, Soglo parti en Autriche, Muguet en Grèce. Alors avant d'entrer dans le détail, question globale, Flo, est-ce que l'OM s'est renforcé au cours de ce mercato hivernal?
Écoute, il faut toujours faire la différence entre une recrue et un renfort.
Mon cher Nico.
Ah pardon, excuse-moi, sors de ce corps. Voilà, exactement, tu connais notre maître sur cette phrase-là. Non, mais j'ai pensé à ça quand tu m'as posé la question. Pour moi, oui. Après, on est dans la projection, hein, parce que évidemment, la vérité du terrain, c'est celle des 4 mois qui restent de compétition, même pas, hein, parce que ça se finit fin mai, mi-mai. Donc, l'OM, pour moi, s'est renforcé parce qu'ils ont trouvé une solution par rapport à des joueurs qui étaient en situation d'échec. Quand je dis échec, c'est échec pour les joueurs évidemment, mais aussi pour le club, hein, parce que faut appeler un chat quand tu recrutes un joueur l'été, que tu le vends comme vraiment un renfort pour le coup concernant la saison et les saisons à venir. Parce que quand il y a des présentations de joueurs, vous vous doutez bien que Fabrizio Ravanelli, Pablo Longoria, Mehdi Benatia, ils nous disent que Brassier c'est un renfort important, que Wai va se fondre dans le collectif, que l'OM va le relancer, que Koné c'est une pépite que Marseille allait chercher.
Ça vieillit vite quoi.
Bah en gros voilà, 4-5 mois après tu te rends compte que l'échec il est pour les deux, le club et le joueur. Donc acter le fait que c'était une situation compliquée, je trouve ça plutôt louable de pas tarder à le faire. Et puis derrière, moi ma sensation, mais je peux me tromper, c'est que Benacer va apporter plus que Koné, Luis Felipe concernant Brassier je sais pas, mais Dedic j'y crois, on en reparlera. Et puis Guiri il va apporter une touche technique peut-être qui manquait devant, donc je pense que l'OM s'est renforcé.
On va rentrer dans le détail hein, de ce mercato hivernal bien sûr. Fabrice, il aurait manqué quoi ou qui selon toi à l'OM pour que le mercato soit parfait, à moins qu'il le soit déjà hein, pour toi hein.
Non, je pense pas qu'il soit parfait, loin de là. C'est vrai qu'il y a des corrections qui ont été apportées, comme le disait Flo un petit peu plus tôt, avec des joueurs qui finalement n'entraient plus dans la rotation de Roberto De Zerbi, qui ont été remplacés par d'autres joueurs qui, a priori, vont apporter un plus. Non, mais ce qui manque, tout le monde le voit, ça se voit gros comme l'année au milieu de la figure, c'est un défenseur central.
Mais oui.
Parce que c'est bien beau, on parle de Benacer, je pense que c'est une super recrue. Et encore une fois, ça doit passer au révélateur du terrain, évidemment, pour que ce soit confirmé. Mais tout le monde se demande encore pourquoi est-ce qu'un vrai défenseur central n'a pas été recruté. Alors on sait qu'il y a Luis Felipe qui est arrivé, mais qui est arrivé depuis le début du mercato, qui est encore à court de forme, et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va vraiment reprendre. Il pensait reprendre contre Nice, et puis finalement il a été un peu court, et il n'est toujours pas là. On a vu qu'il y avait le jeune Argentin Anselmino qui était attendu dans les dernières heures du mercato, et finalement ça n'a pas pu se faire. Et Pablo Longoria l'a très bien expliqué sur votre antenne, il était assez remonté contre la manière de faire de Chelsea. Donc voilà, je pense que l'OM aurait sans doute dû activer un plan B quand ils se sont rendus compte qu'Anselmino n'était pas là, qu'il ne pouvait pas se faire. Et je pense que Mehdi Benatia, Pablo Longoria devaient avoir d'autres joueurs dans les tuyaux quand même, quoi, parce que c'est quelque chose qu'ils ont anticipé. Et moi, je reste un peu sur ma faim au niveau du défenseur central. Mmh. Après, l'OM est deuxième, évidemment. Les voyants sont plutôt ouverts à l'heure actuelle. Donc, peut-être qu'on va me dire que je fais un peu trop la fine bouche, mais pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, c'est vrai que je trouve que le casting manque un peu de ce personnage-là, d'un défenseur central supplémentaire.
Alors, en incluant le dernier mercato estival, rien que cette saison, l'OM en a une quarantaine de mouvements sur le marché des transferts. Depuis que Pablo Longoria est président du club, le nombre de transferts a explosé en volume et en numéraire. On peut ajouter les 6 entraîneurs qu'a connu l'OM en 4 saisons sous sa gouvernance. Pourquoi Pablo Longoria, qui prône dans ses discours la stabilité et la continuité, favorise-t-il autant de mouvements? Sa réponse, c'était lundi dans l'Afterfoot.
C'est quelque chose que parfois tu souviens, et il faut tout contextualiser, je crois. Spécialement parce que pour être à l'Olympique de Marseille, tu as besoin d'avoir une énergie complètement différente. Et comme j'ai dit dans beaucoup de conversations privées ou publiques, en allant à l'Olympique de Marseille, ça peut rassembler à 3 années dans des différents clubs, non? Pour ça qu'il faut avoir une énergie complètement différente. Au même moment, c'est mon souhait. C'est notre souhait de pouvoir donner continuité parce que, sincèrement, j'ai une équipe de travail avec Mehdi, avec Roberto De Zerbi, avec toute l'organisation qu'on a créée aussi autour du coach, avec Giovanni Rossi, avec Marcello Iaia comme responsable de la performance. Je crois et sincèrement qu'on est dans la bonne voie pour donner stabilité ici au sein de l'Olympique de Marseille. C'est la chose qu'on souhaite énormément parce que le football, on peut dire des choses. Tellement de changements, c'est négatif. Et je l'admets. La continuité et la stabilité, c'est la chose que je crois que tous les clubs on cherche en Europe.
Alors, Fabrice, il y a quand même un paradoxe entre le discours, la volonté affichée de Longoria et la réalité, ce qu'il réalise finalement.
Oui, parce qu'il y a des joueurs qui partent alors qu'ils sont à peine arrivés. Et tu as la sensation qu'ils n'ont pas pu donner tout ce qu'ils pouvaient donner. Mais après, je peux comprendre quand même le raisonnement sur un Brassier, par exemple. Un Brassier, on se rend compte qu'il n'y arrivait plus et on lui souhaite de redevenir le joueur qu'il était maintenant qu'il est à Rennes. Mais voilà, on était arrivé au bout de quelque chose et à chaque fois qu'il jouait, ou quasiment, malheureusement, il passait à côté. Et je me souviens d'ailleurs, même Brassier, quand il est arrivé cet été, qui nous a été présenté en conférence de presse, lui aussi parle de cette fameuse stabilité de ce projet à plusieurs années. Et je le relance, je lui dis, mais tu es sûr qu'il va y avoir de la stabilité? Il me dit, oui, j'en suis sûr, le club me l'a vendu. Et 6 mois plus tard, il est parti. Donc voilà, après, si on regarde du bon côté des choses, on peut se dire, l'OM s'est rendu compte qu'il s'est trompé, qu'il a fait des erreurs et il les rectifie vite. Et l'autre bon côté, c'est que le club ne perd rien au niveau financier parce qu'ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, à faire des opérations plus ou moins blanches.
Ouais, mais là, je te coupe. Si tu fais le bilan de Longoria sur la balance des transferts, elle est ultra négative. Il est à près de moins 200 millions d'euros, moins 190 millions d'euros
en 4 saisons. Je te parle que des mouvements récents, tu vois. Ouais. Wai qui a été acheté assez cher à Lens et qui est revendu aussi cher, voire un petit peu plus à Francfort.
C'est à moins 160 sur Longoria, sur l'air Longoria. Mais effectivement, c'est plus équilibré cette année, ouais.
Voilà, je te parle vraiment de ces derniers temps. Je remonte pas plus loin parce que quand Pablo Longoria est arrivé, il était directeur sportif, c'était encore autre chose, on était encore dans une autre optique. Donc voilà. Et après, le mauvais côté des choses, c'est de se dire que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un mauvais travail de scouting qui a été fait à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été raté au moment où tu as analysé le joueur, ses performances, mais au-delà de ses performances aussi, son état d'esprit, ce qu'il peut apporter dans un contexte aussi particulier que celui de l'Olympique de Marseille? Là, je pense qu'il y a des failles. Mehdi Benatia, d'ailleurs, dans l'interview de nos confrères de l'Équipe, le reconnaît que évidemment, le recrutement n'est pas une chance exacte, et ça, on le sait tous. Il rencontre
des
joueurs, il discute avec eux, mais que malheureusement, ils n'arrivent pas à cerner totalement la personnalité du joueur. Et moi, c'est peut-être ça qui me manque, c'est de me dire que peut-être que quand on fait un investissement assez important sur un joueur, il faut aller au-delà de ce que tu peux voir lors d'un repas au resto ou quoi. Peut-être faire une enquête de personnalité un peu plus approfondie.
Alors Flo, il s'en cache pas, Longoria, également dans cet entretien qu'il a concédé à l'Afterfoot, mais il dit que son modèle économique, c'est celui du trading comme beaucoup de clubs aujourd'hui, notamment en Europe. Est-ce que le club, il peut se stabiliser avec autant de mouvements finalement? Parce que c'est vrai, quand on fait le bilan là, de ce qui s'est passé rien que cette saison, c'est énorme quand même, encore une fois.
Oui, alors je sais pas si on peut parler de modèle économique concernant le trading, parce que si c'est vraiment un modèle économique, c'est un échec, puisque tu as toi-même rappelé que la balance penchait plutôt en défaveur de l'OM et d'une perte d'argent. Pour moi, c'est plutôt un Marseille et des dirigeants qui sont relativement décomplexés par rapport au nombre de mouvements et, comme il l'explique, assumer le fait que si ça ne va pas au bout de 6 mois, 1 an, il vaut mieux arrêter les frais rapidement, se rendre compte que tel joueur n'est peut-être pas fait pour Marseille et du coup voilà, assumer ces mouvements-là, au moins sur certains joueurs qui sont en situation compliquée. Pour moi, je pense que la stabilité, enfin, il ne faut pas se tromper dans le discours. La stabilité concernant l'effectif, je ne sais pas si je l'ai vraiment entendu chez les dirigeants. Alors, s'ils l'ont dit, peut-être qu'ils l'ont juste déclaré, mais sans trop y croire. Moi, j'y ai jamais cru, en tout cas, la stabilité en termes d'effectifs et de joueurs. Là où je vois une certaine stabilité, en tout cas une volonté de s'inscrire dans la durée, c'est par rapport au projet autour d'un entraîneur. Il faut.
Mais là, c'est pareil. Il y en a eu 6 en 4
ans.
Non,
mais attends. Ben justement, c'est pour ça que je te dis que maintenant, là, on part normalement. Alors, je peux me tromper. Imaginons cet été, il y a un séisme et Roberto De Zerbi part. Mais il n'y avait pas de stabilité, très clairement. Sampaoli qui s'en va juste avant une saison de Ligue des Champions. Tudor qui préfère rester un an. Ne parlons pas de la saison dernière avec le quatuor Marcelino, Abbandonado, Gattuso et Gasset. Et donc, les discussions que j'avais pu avoir avec Pablo Longoria, c'était non, ça c'est pas possible, ça c'est pas sérieux, c'est pas l'image d'un club qui travaille bien. Il faut qu'on s'articule autour d'un vrai patron sportif qui doit être donc Roberto De Zerbi sur minimum 3 ans. Après, assumer derrière que certains joueurs se fatigueront de son style ou que lui voudra changer d'avis. Mais en tout cas, la tête pensante du sportif, en plus de Benatia, normalement c'est Roberto De Zerbi. Et pour moi, la stabilité s'articule plus autour du coach qu'autour d'un effectif.
Alors on va entrer dans le détail de ce mercato hivernal. Parmi les recrues de l'OM de cet hiver, il y a Amine Gouiri, le joueur de 24 ans qui est arrivé du Stade Rennais pour 19 millions d'euros hors bonus, et il a confié ce que De Zerbi attendait de lui.
C'est un style de jeu, il m'attend surtout au poste de numéro 9, mais après il sait que je peux jouer dans les deux en dessous, donc ça dépendra des matchs, mais il veut que je participe au jeu, que je fasse des appels en profondeur et surtout que je sois dans la surface. Mais pas que je reste que dans la surface, mais que je, en fonction de mes qualités, comme il sait, il connaît très bien mes qualités, de participer au jeu, de finir les actions et surtout de m'amuser, parce qu'il dit que dans les 30 derniers mètres, c'est l'instinct et il faut prendre du plaisir.
Alors l'OM a revendu Wai. Est-ce que Flo Gouiri peut assurer ce poste de numéro 9 justement?
Écoute, au moins jusqu'à la fin de saison, je pense que ça va le faire. En tout cas, Gouiri plus Mopé, on verra dans quel ordre. Je pense que Amine Gouiri va être titulaire pendant les prochains matchs et que peut-être Nil Mopé sera le super sub amené à entrer en cours de rencontre. Mais pour moi, oui, il peut assumer ce rôle-là dans le système qui est celui de Roberto De Zerbi sur le moment. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'année prochaine, par exemple, ou même en cours de saison, on verra avec toutes les recrues qu'il y a eu, notamment l'arrivée de Benacer, on va en parler, un milieu de terrain fourni, est-ce qu'il peut amener à évoluer de système, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce 3-4-3 là, Mopé, il a plus joué dos au jeu qu'être vraiment un attaquant de surface, même si parfois il a gratté quelques ballons, il a aussi joué ce rôle là mais Gouiri, je pense qu'il peut, par sa capacité à combiner une certaine finesse technique, s'imposer dans ce rôle de numéro 9 avec ses qualités, en, à mon avis, repoussant le problème de l'attaquant à l'été prochain, parce que si Marseille se qualifie en Ligue des Champions, je suis persuadé, convaincu que l'OM va vouloir recruter un top attaquant, et je pense même qu'une fois que tout ce beau monde aura pris quelques jours ou semaines de repos après le mercato qui vient de se terminer, je suis persuadé qu'ils vont commencer à travailler sur une recrue offensive pour l'année prochaine dans la perspective où il y a la C1.
Fabrice, est-ce qu'il manque un vrai, je mets des guillemets, mais un vrai neuf à cet OM?
Ouais, moi je pense qu'il manque un vrai neuf. Gouiri, c'est un bon joueur. On a vu son entrée en jeu là, dimanche dernier contre Lyon, qui a été très intéressante, qui a été même décisive, avec cette passe décisive, même si elle est involontaire pour Mason Greenwood. Donc ouais, mais en revanche, il manque un vrai neuf. Un neuf qui pèse, qui va mettre sa quinzaine de buts par saison. Et c'est ça qui permettrait à l'OM de franchir encore un palier, même si Gouiri, je pense qu'il va faire des choses bien avec, comme disait Flo, sa finesse technique, sa manière de décrocher pour venir aider ses partenaires, pour créer des surnombres sur les côtés. Je pense que ça peut être intéressant, mais l'OM ne va sans doute pas faire l'économie d'acquérir un vrai neuf dans les mois qui viennent, même si c'est vrai que le lead offensif pour l'instant est plutôt confié à Mason Greenwood. et que finalement, bah, c'est lui qui a toutes les qui a quasiment toutes les responsabilités au niveau offensif. Hein. Puis c'est le meilleur buteur de l'équipe, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. On l'a déjà dit et on le voit encore semaine après semaine. Mais voilà, mais je pense que pour aller encore plus loin, il faudra que l'OM mise sur un vrai buteur, sur un vrai grand attaquant, comme on dit depuis l'arrivée de Frank McCourt. Et j'en parlais la semaine dernière avec Bafétimbi Gomis, et lui aussi partage complètement cet avis. Et je pense que Bafé Gomis fait partie des derniers vrais attaquants que l'OM a pu avoir dans ses rangs au cours des dernières années.
Il y a quand même eu Alexis Sanchez et ouais. Pierre-Emerick Aubameyang juste après. Mais là, je retrouve bien l'exigence de Fabrice qui...
Non, c'est l'exigence rime avec la Provence, t'as compris.
Non, mais je sais, qui veut un défenseur supplémentaire, un défenseur central, qui veut un top buteur qui va mettre 25 buts aux côtés de Mason Greenwood. Fabrice, je crois qu'il se voit déjà en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que moi j'ai le sentiment que ça aurait fait
trop.
C'est
bien parti.
Pour une saison, il reste 3 mois.
Je parlais de la saison prochaine pour l'attaquant, okay. Pas pour le défenseur.
D'accord, en fait.
Je parlais de la saison prochaine. Ouais, le mercato est terminé, les gars.
Non, mais ce que je veux dire, hein, c'est que si on fait le bilan du mercato hivernal. Marseille se précipitant sur un autre défenseur central. Marseille qui fait la fine bouche par rapport à Guiri.
On est d'accord.
Ses défauts et ses qualités. Non mais Nico, juste,
vas-y.
Ça aurait peut-être fait trop à un moment donné. Le mercato d'hiver, c'est quand même un mercato où c'est pas facile de trouver des joueurs.
Mais justement, Flo, puisque tu parles.
Un mercato d'ajustement.
Mais justement, puisque tu parles, est-ce que c'est pas trop tu tends la perche, mais 19 millions d'euros plus 3 de bonus pour Guiri, qui devient la troisième recrue hivernale la plus chère de l'histoire de l'OM derrière Vitinha et Payet. Vitinha et Payet qui sont d'ailleurs les deux recrues les plus chères de l'histoire du club, deux joueurs qui, comme Guiri, sont arrivés en toute fin de mercato hivernal. Est-ce que c'est pas un peu un panic buy, Guiri, finalement? C'est cher quand même, Guiri. Ouais. 22 millions d'euros, ouais. Bonus compris, non?
Après, le chiffre n'engage que ceux qui y croient. Écoute, 19 plus 3, peut-être. Moi, j'ai pas eu le nez dans les contrats. Simplement, il y a eu beaucoup.
De toute façon, il parle de transparence, Longoria, on n'a pas accès à ces
ouais,
chiffres.
Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de mouvements entre l'OM et Rennes. Si je dis que ça n'engage que ceux qui y croient, c'est que par exemple, pour moi, Brassier ne vaut plus 12 millions d'euros après les 6 mois qu'il vient de faire à l'OM. Évidemment que Brest, si j'explique pourquoi j'émets juste un petit doute sur le
ouais.
transfert, c'est que Brest, évidemment, quoi qu'il arrive, allait récupérer 12 millions puisqu'ils avaient vendu leur joueur avec option d'achat, Lilian Brassier, l'été dernier, option d'achat obligatoire 12 millions d'euros. Donc Brest, j'imagine qu'ils ont dit à Marseille, on fait ce que vous voulez, on peut casser le prêt ou on s'organise comme on veut, mais nous on veut nos 12 millions, quoi, parce que sinon ouais. c'est trop facile, vous n'allez pas faire baisser le prix du joueur maintenant. Donc quand j'ai vu que Rennes rachetait le joueur avec option d'achat, les mêmes conditions de 12 millions d'euros, je me suis dit peut-être que l'OM du coup va payer un peu plus cher un Guiri ou quoi, ouais. c'est possible. Alors c'est une hypothèse. Mais pour moi, c'est pour ça que je reste prudent par rapport au prix. Parce que si c'était 15 millions Guiri, peut-être qu'on n'aurait pas cette question-là en tête. Et pour moi, au final, vu les prix du moment sur les attaquants, tu vois, j'ai plus été choqué quelque part, entre guillemets, du prix de. Enfin, oui, j'ai été choqué du prix de Vitinha à l'époque. Ouais. Là, Guiri, 19 plus 3, imaginons qu'il y a 3-4 millions de plus par rapport à d'autres transactions. Je ne sais pas. Ouais. Franchement, ça ne m'a pas interpellé plus que ça. Je trouve que c'est quand même un bon joueur, Mingwe.
Alors, l'autre recrue phare de l'OM de cet hiver, c'est un autre international algérien, Ismaël Benacer, le joueur de 27 ans qui arrive prêté par l'AC Milan avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Pourquoi, alors que l'OM a déjà beaucoup de monde au milieu de terrain, Pablo Longoria est allé chercher Benacer? La réponse du président marseillais lundi soir dans l'After.
Si tu considères Geoffrey Kondogbia un défenseur central, c'est vrai que pour avoir plus d'alternatives à donner au coach dans le milieu de terrain, après, comme toujours, c'est à lui de faire ses choix. Il doit avoir des différents profils au milieu du terrain. Et on considère qu'un joueur organisateur, un numéro 6, c'est quelque chose d'intéressant dans lequel on pouvait donner au coach un joueur encore complémentaire avec des caractéristiques que ça marche bien, on croit, avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir approfondir dans une opération comme ça.
Alors Rabiot, Heubier, Grongier, Nadir, maintenant Benacer. Est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs au milieu de terrain, Fabrice, à l'OM là?
Bah écoute, on me reproche de vouloir trop de joueurs pour l'OM. Et là, si je dis qu'il y en a trop dans ce secteur-là, après ça va être mal perçu.
Il veut un 10 et un 8 mais... en plus, Fabrice.
Non mais écoute, plus sérieusement, on peut se poser, en tout cas, on peut se poser la question. D'ailleurs, j'ai posé la question hier à Ismaël Benacer en conférence de presse à son arrivée, en lui demandant, bah, écoute, c'est quand même le milieu de terrain de l'OM est quand même le secteur le plus fourni et l'un des plus performants. Comment est-ce que tu penses t'incorporer dans ce secteur-là? Il n'a pas voulu répondre, évidemment, et on le comprend. C'est le début, c'est le début à peine, il ne s'était pas vraiment entraîné. Sans doute que Roberto De Zerbi va être questionné sur le sujet en conférence de presse prochainement. Mais oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Après, est-ce que ça ne va pas engendrer aussi un réajustement de l'équipe? Est-ce que Rongier ne va pas pouvoir descendre axe droit dans cette défense à 3? C'est pas impossible aussi, même si c'est vrai que Murillo, moi j'ai plutôt tendance à trouver qu'il fait du bon travail depuis le début de la saison. Et je crois que Flo est sur la même longueur d'onde que moi à ce niveau-là. Oui. Même Dedic, quand il va arriver, excuse-moi, peut-être que j'anticipe un peu ta future question, mais Dedic aussi, comment ça va se passer dans le couloir droit, alors que tu as Lucien Riquet, et Dedic, l'OM font vraiment beaucoup d'espoir en lui. Donc voilà, tout ça fait que ça peut amener beaucoup d'ajustements qui peuvent s'opérer dans les prochaines semaines. C'est vrai que ce n'est pas le secteur dans lequel on aurait dit que l'OM avait vraiment besoin de se renforcer à ce mercato-là. Moi, encore une fois, je le redis, je pense que c'était plus en défense centrale, parce que c'est pas, je trouve que ce n'est pas l'assurance tout risque à ce niveau-là, notamment axe gauche. Je suis désolé, mais Cornelius, pour moi, pour l'instant, c'est quand même assez, assez limité. Donc, excusez-moi de dire ça, mais c'est ce que je pense, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette vision-là. Donc voilà, donc il va y avoir des ajustements que Roberto De Zerbi va faire par la suite. Après, est-ce que c'est sans doute aussi une manière de se projeter déjà vers la saison prochaine et de faire un joueur comme ça pour commencer à anticiper la suite? Et c'est vrai que je pense que ça peut être une véritable plus-value pour l'entrejeu et pour l'Olympique de Marseille d'une manière globale.
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la saison prochaine et très certainement les dirigeants de l'OM l'anticipent également. Mais là, il va y avoir une saison à terminer et on est allé un peu plus de la moitié. Mais il n'y a qu'une compétition pour l'OM. La question qu'il y a derrière ça aussi, Flo, c'est qui risque de payer, entre guillemets, finalement, l'arrivée de Benacer au milieu de terrain à l'OM? C'est Rongier qui va moins jouer? Enfin, il ne va pas pouvoir faire tourner tant que ça, De Zerbi, finalement.
Écoute, pour moi, ce sont plutôt les jeunes joueurs qui vont en faire les frais. Je pense à Bilal Nadir qui peut-être, alors pourtant Roberto De Zerbi il l'aime beaucoup, hein. D'ailleurs il l'a titularisé parfois dans des matchs où on ne l'attendait pas forcément, mais avec la concurrence au milieu, peut-être que ce sera plus compliqué pour lui. On oublie même Bacola qui est un joueur pour grandir, qui avait peut-être besoin de temps en temps de gratter ci et là quelques minutes. On a totalement oublié, parce que je crois que tu ne l'as pas cité, Amine Harit qui en plus revient de blessure, alors touché au mollet, mais pour moi Amine Harit voilà, ça reste un bon joueur et en sortie de banc pour 25-30 minutes, voire être titulaire parfois, hein, s'il revient à un bon niveau, je pense que ça peut être intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a des soucis, des problèmes de riches quelque part au milieu de terrain pour Roberto De Zerbi, mais comme l'a justement dit Fabrice, je pense que c'est en perspective de préparer la saison prochaine. Ismaël Benacer, l'OM le voulait déjà l'été dernier, voilà, c'était presque écrit au final qu'il vienne à Marseille, et donc l'OM a profité de cette opportunité pour le faire signer. Effectivement, la question se pose. Naturellement, certains ont dit Rongier, il va être sur le banc parce que le milieu, ça va être Rabiot, Hubert, Benacer, parce que comme si on fonctionnait que à coup de CV et de grands noms. Je ne crois pas que ce soit la philosophie de Roberto De Zerbi, qui fonctionne lui au mérite, et il a vu que Rongier méritait de jouer équilibrer l'équipe. Donc je pense que Rongier aura encore largement son mot à dire sur cette fin de saison.
Alors, puisqu'on évoque les milieux de terrain, un autre joueur était annoncé comme une possible recrue de l'OM depuis quelques mois déjà, Paul Pogba, l'international français qui est libre, mais qui ne viendra donc pas à l'OM, pas cet hiver en tout cas. Pablo Longoria s'est exprimé sur le dossier Pogba aussi.
C'est une question plutôt de mettre en considération tous les différents questions, non? Quel est l'avantage de porter un joueur avec ses caractères, ses experts internationaux et ses niveaux footballistiques et aussi caractériels? Je crois que c'est important, mais en même temps, tu dois tenir les équilibres à l'intérieur de ton groupe, tu dois tenir une dynamique sportive. Je n'étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. Après, dans les moments qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les marchés, j'ai fait une conférence de presse dans laquelle Flo il était présent. L'important, c'est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive. Au même moment que tu dois tenir les comptes économiques et au même moment que tu dois tenir aussi la volonté qu'on a tout le monde, de Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, à moi personnellement, de chercher de donner les meilleures armes possibles à l'entraîneur, non?
Alors Mehdi Benassia, qui est dans l'équipe de ce jeudi, a confirmé avoir étudié la possibilité Pogba cet hiver. Fabrice, la porte, elle n'est pas laissée d'ailleurs complètement fermée de la part de Benassia, alors qu'il est en osmose avec le discours de son président, en parlant de l'équilibre du vestiaire. Il y a beaucoup de monde déjà au milieu de terrain. Il n'est pas encore fit, dit Mehdi Benassia en parlant de Paul Pogba, mais la porte, elle n'a pas l'air fermée, hein, loin de là d'ailleurs.
Ouais, mais c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit jeu qui joue les dirigeants de l'OM sur le dossier Pogba depuis un petit moment. Comme s'ils ont pris la température parce que parce qu'il fallait la prendre quoi, tout simplement, et parce que ils ont des relations naturelles, hein, j'ai envie de dire, avec Paul Pogba, pour différentes raisons. Mehdi le connaît très bien, Pablo le connaît très bien, etc. Mais comme le disait Pablo, finalement ça c'est un dossier qui s'est refermé presque de lui-même quoi, et assez rapidement. Moi j'avais la sensation pourtant que par rapport avec ce milieu qui est extrêmement fourni, qui est extrêmement performant depuis le début de la saison, qu'ils auraient pu se dire, en anticipant la saison prochaine, pourquoi pas aller sur ce dossier-là. Les risques sont minimes, on fait un gros coup marketing, et puis comme ça on l'aura prêt pour le début de saison prochaine, vraiment totalement. Il a pris la température du vestiaire, la température de Marseille, etc. Mais bon, c'est un autre calcul qui a été fait, que je comprends totalement aussi, hein, un peu de ne pas déséquilibrer le vestiaire, ne pas bouleverser le groupe non plus. Donc voilà, après il va falloir rester attentif, mais je pense pas qu'ils iront dessus par la suite quoi. S'ils ont pas été maintenant, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils iraient par la suite, d'autant que il va y avoir une concurrence d'autant plus féroce sur le dossier Pogba quand il va pouvoir être performant et jouer à partir du mois de mars.
Flo, quelle lecture tu fais, toi, du dossier Pogba et des déclarations et de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia, du coup?
Honnêtement, c'était un peu compliqué de décrypter tout ça. Donc, dans ces cas-là, il faut un peu user de son feeling et voilà, des sensations, parce que les dirigeants, en gros, expliquent qu'ils y ont pensé, qu'ils ferment pas totalement la porte, mais que pour l'équilibre du vestiaire, c'était compliqué. On comprend bien aussi qu'il y avait des petits doutes. Il y a des petits doutes peut-être concernant l'état physique de Paul Pogba. Moi du coup j'en sors avec le sentiment que c'est encore possible si l'OM est en Ligue des Champions, si Pogba ne s'engage pas dans un club sur une moyenne durée là dans les jours ou semaines qui viennent, je pense que Marseille pourrait éventuellement revenir à la charge, parce que ça ressemble trop à l'OM de tenter quand même ce coup-là, une fois qu'ils auront éliminé deux choses: un, les doutes concernant son état physique, donc Paul Pogba de toute façon, quoi qu'il arrive, continue de travailler en solo pour revenir en forme, et deux, là où je pense les dirigeants très très sincères, c'est qu'ils craignaient, vu la force, la puissance médiatique qu'aurait eu une venue de Paul Pogba à Marseille, il craignait que ça pollue un peu le vestiaire ou l'environnement autour. Par exemple, pour des raisons totalement différentes, le cas de Dimitri Payet, va-t-il jouer, va-t-il être titulaire, va-t-il être sur le banc, ça les avait un peu agacés, ils avaient l'impression que ça prenait toute la lumière et qu'on parlait plus de rien sauf de Dimitri Payet. Dans un registre différent par rapport au charisme qu'il a, à l'aura qu'il a à l'international, je pense qu'un Paul Pogba, ça a un petit peu peut-être perturbé la vie olympienne qui des fois n'a pas besoin de ça, on le sait, avec une pression pour un oui ou pour un non. Donc je pense qu'une fois que tout ça sera mis de côté, honnêtement, je me dis que c'est encore possible peut-être que Marseille essaye de recruter Pogba.
Allez, dans le secteur défensif, le polyvalent bosnien Mardedic vient de s'engager avec Marseille, joueur de 22 ans qui arrive du RB Salzbourg pour 1,5 million d'euros. Il a été présenté aux médias ce mardi par Fabrizio Ravanelli.
C'est un joueur très important pour nous, c'est un joueur... qui malgré son âge de 22 ans, il a une expérience importante. Il s'est formé dans les championnats autrichiens. C'est un joueur polyvalent. Il peut jouer dans le couloir droit. Il peut jouer dans le couloir gauche. Il est aussi capable de jouer dans l'axe. Et ça, à mon avis, c'est très important pour notre équipe, pour arriver à centrer notre objectif, c'est celle-là de la Champions League. C'est un joueur aussi qui a joué en Champions League. Il y a un niveau très important, même dans la Champions League. Moi, j'ai eu la possibilité aussi de le voir en face à des équipes importantes comme la AC Milan à la télévision, et il a affronté aussi des joueurs très, très importants comme Leao, un des meilleurs joueurs à niveau de dribbling. Et Amar, il était capable de fermer Leao et de montrer tout son niveau.
Alors, c'est vrai que Dedich, c'est pas la recrue hivernale dont on parle le plus, hein, d'ailleurs, à Marseille et d'une façon générale. Tu disais, Fabrice, toi, que c'est un joueur qui te, bah, que t'as envie de voir jouer, qui te plaît pas mal, d'ailleurs. C'est vrai que la façon dont le présente Ravanini, finalement, on peut comprendre que l'OM est craqué sur lui. Hein.
Ouais, j'ai envie de voir ce qu'il donne, parce que j'entends que des échos positifs sur lui depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille. J'avoue que je regarde pas tous les matchs de Salzbourg, hein, excusez-moi, mais j'entends que des échos positifs sur lui, des copains scouts qui m'en ont dit du bien, et qui eux aussi sont curieux de voir ce que ça va donner à un niveau supérieur, hein, quand il va se confronter à l'exigence de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de voir ça, et d'autant que qu'à la commanderie on fonde beaucoup d'espoir en lui aussi, que les dirigeants sont vraiment certains d'avoir tiré pas le gros lot, mais en tout cas d'avoir fait une bonne pioche. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Après, comment est-ce qu'il va s'incorporer dans cette équipe, hein, c'est encore une vraie question. À partir de quand? C'est vrai que lui, il joue hein, depuis le début de la saison. Il a fait des matchs de Champions League également. Mais voilà, c'est vrai que indépendamment de la Ligue des Champions, c'est vrai que le niveau du championnat autrichien n'est pas le même que celui du championnat de France. Mais du haut de, même s'il n'est pas très âgé, il a quand même une belle expérience. Il est international. Il compte plusieurs sélections avec la Bosnie. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va donner. À l'OM et dans le championnat de France, et voir si toutes les promesses qu'il peut susciter, s'il arrive à les confirmer.
C'est vrai que 22 ans, il a déjà joué la Champions, Saint Ravani le disait, il a déjà une certaine expérience internationale, on va dire, Flo. Après, c'est toujours pareil, Fabrice vient de le souligner, il va franchir un gap, il va changer de dimension en signant à l'OM, mais c'est vrai que ça donne envie, hein, de voir ce qu'il donne. Hein.
Bon, après, il a joué la Ligue des Champions, il a une petite expérience internationale, donc je rejoins tout à fait Fabrice sur les promesses suscitées par cette recrue. En tout cas, les dirigeants de l'OM sont convaincus d'avoir fait un très très bon choix, parce qu'il est polyvalent, parce qu'il est offensif, il aime percuter, il a une certaine fougue alliée à un petit peu d'expérience du haut niveau. Donc l'OM croit beaucoup en lui. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport à cette recrue, c'est que ça va booster, peut-être bouleverser, bousculer la hiérarchie sur les côtés. Alors je ne sais pas s'il pourra véritablement jouer dans l'axe, dans une défense à 3, ça on verra, parce que même s'il a été présenté comme polyvalent, je crois qu'il vient d'abord pour être sur un côté en tant que piston. Mais imaginons il joue à droite, est-ce que Luis Enrique de temps en temps va basculer à gauche? L'OM reste un peu sur sa faim concernant les prestations de Quentin Merlin, même si Marseille continue de croire en lui, mais malgré tout, offensivement, peut-être qu'il pourrait apporter encore plus vu qu'il est en position souvent très, très avancée. Je pense que ça va redistribuer un petit peu les cartes à ce poste-là, et je ne serais pas étonné que rapidement Dedic mette tout le monde d'accord. En tout cas, la volonté de Zerbi, c'est de rapidement lui donner du temps de jeu. Donc je pense que la curiosité qu'on a, Fabrice, moi, beaucoup de suiveurs et de supporters, on va être vite au courant de son niveau, et on va vite se rendre compte, parce que je crois que De Zerbi ne va pas tarder à le lancer.
Et début janvier, l'OM avait déjà officialisé la venue de Luis Felipe, un défenseur central de 27 ans, alors qu'il n'a plus joué depuis le 24 août, 20 minutes avec le club saoudien d'Al Ittihad, pour ce qui est d'ailleurs son seul match de la saison. Le jour de sa présentation à la presse, le 8 janvier dernier, on lui avait demandé s'il se sentait apte à jouer. Jean Bafouille.
Ah, encore, mais si avait un peu de settimana per mettre
pour l'instant, il me faut encore quelques semaines pour me remettre à 100% physiquement au niveau que je veux avoir. Et pouvoir recommencer à jouer et ne plus m'arrêter. Donc avec le staff technique et le préparateur physique, on fait un travail pour ça, pour que je me sente bien pour tout le reste de la saison, que je ne m'arrête plus. Et après, c'est normal que quand on s'entraîne avec des herbes, tout le monde sait le football qu'il veut pratiquer. Moi, je suis très heureux de pouvoir être entraîné par lui.
Et alors un mois plus tard, Fabrice, Luis Felipe, il n'a pas encore joué avec Marseille. Tu le vois comment, toi, ce joueur? C'est quoi, un joueur de complément? Alors lui aussi, il a une certaine expérience, hein, déjà.
En tout cas, il arrive avec ce statut-là, mais je pense que normalement, c'est le genre de joueur qui doit se faire une place rapidement titulaire, en charnière, surtout dans une défense à 3. Après, il prend le temps de se retaper physiquement. Où est-ce qu'il en est exactement? C'est difficile à dire à l'heure où on se parle. Moi, j'ai des scouts qui me disent qu'il est cramé physiquement. Mais bon, il n'a que 27 ans. C'est une théorie à laquelle je n'ai pas forcément envie de souscrire. Je pense que si l'OM est allé sur lui, c'est qu'ils ont dû avoir des garanties, notamment au niveau physique. Voilà, c'est quand même, ça reste un jeune joueur et qui, en plus, n'a pas beaucoup joué. Donc, qui a dû un peu s'économiser ces derniers temps, en tout cas. Donc voilà, moi, je pense que normalement, Luis Felipe ou Luis Felipe, comme tu dis, tu parles portugais beaucoup mieux que moi.
Oui, mais l'accent n'est pas pareil au Brésil, tu vois.
Je pense que normalement, il doit s'incorporer dans la ligne défensive et faire partie des titulaires aux côtés d'un Léo Balerdi, par exemple. Et normalement, il doit plus être délogé. Et après, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va retrouver son niveau physique qu'il avait avant de partir en Arabie Saoudite? C'est un autre débat, mais je pense sincèrement que si l'OM est allé dessus, c'est qu'ils avaient des garanties à ce niveau-là.
Flo, ce sera quoi la place de Luis Felipe selon toi? Alors, est-ce que tu penses comme Fabrice que c'est un joueur qui est là, qui doit s'imposer comme titulaire dans cette équipe?
En tout cas, la volonté de l'OM, c'est oui, de l'installer et d'instaurer cette concurrence avec, par exemple, des joueurs comme Cornelius. Si tout le monde est dispo, peut-être que l'OM et Roberto De Zerbi peut envisager un Balerdi axe de la défense, Kondogbia légèrement donc axe gauche et Luis Felipe axe droit. Je pense que c'est possible. Donc, a priori, il est venu pas pour être un joueur de complément. Il est venu parce que l'OM, comme l'a dit Fabrice, croit en lui. C'est vrai que je m'attendais à le voir un peu plus tôt parce qu'on nous avait indiqué que fin janvier, début février, ça allait le faire. Donc je pense que les prochains matchs, Angers-Saint-Etienne, va falloir qu'il ait un petit peu de temps de jeu et qu'on se rende compte. Mais il y a quand même une concurrence importante en défense. Kondogbia va aussi revenir. Lui qui a été absent pour une douleur au mollet, donc c'est bien qu'il soit de retour physiquement si c'est le cas, le défenseur brésilien qui a aussi la nationalité italienne, mais par contre il faut aussi qu'il soit surtout au niveau, parce que Murillo, on en parlait, moi je pense qu'il fait quand même relativement l'affaire, enfin il fait ses matchs avec ses défauts et ses qualités. Balerdi, Kondogbia, peut-être la possibilité parfois que Rongier redescende d'un cran, je sais pas honnêtement si il y a ça dans un coin de la tête, mais la concurrence en défense elle va être là, donc il va falloir qu'ils se battent aussi pour s'imposer.
Allez, un mot aussi sur les départs de l'OM de cet hiver. Les sorties les plus remarquées sont celles de Lilian Brassier, prêté à Rennes tout comme Ismaël Koné, et Eli Wahi, vendu à Francfort. Des joueurs qui avaient été recrutés l'été dernier, Pablo Longoria s'était exprimé sur ces départs anticipés et ou prématurés lundi soir dans l'after.
Normalement, dans les moments que tu signes un joueur, tu considères et tu es convaincu à 100% que ce sont des joueurs qui vont te donner de la performance sportive.
Oui.
Après, comme vous savez, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre, Marseille c'est un contexte particulier, l'OM c'est un contexte particulier, spécialement le niveau d'attente qu'il y a toujours autour du club, c'est un niveau de pression qui s'est élevé. C'est quelque chose dans lequel tu dois avoir en considération, il y a des joueurs que le mental, la performance, le travail, la quotidianité les fait bien être à l'OM. Parfois, il y a des situations que tu dois chercher de corriger pour le bien de tout le monde.
Voilà, et la correction donc a été faite de façon assez rapide, très peut-être trop d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser. Alors Flo, tu nous l'avais déjà expliqué d'ailleurs, notamment dans l'after, il y a une volonté de la part des dirigeants de l'OM de ne pas laisser traîner les dossiers « ratés » entre guillemets, quoi.
Oui, pour différentes raisons. Déjà parce que financièrement, tu t'y retrouves... tu peux t'y retrouver si jamais tu réagis 5-6 mois après, parce que si tu laisses traîner un certain malaise, le joueur perd encore plus de sa valeur et après le revendre devient très très compliqué. Donc il faut juste assumer ça et en être un peu décomplexé. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu me posais la question du trading, et c'est ce qu'a dit aussi Mehdi Benatia dans l'interview cette semaine dans l'équipe, où il explique quitte à avoir le sentiment qu'on est dans un hall d'aéroport, on continuera d'assumer eh bien ces départs-là peut-être assez tôt, tant qu'il y a quelque chose qui n'y est pas, c'est le mental, l'exigence, parce que tout ça est non négociable. Et c'est vrai que concernant des joueurs comme Wahi, Brassier ou Koné, même Jonathan Roux avait été un petit peu visé, Roberto De Zerbi lui-même avait lancé l'alerte assez tôt, hein.
Il avait dit, je crois que c'était au mois d'octobre, lors d'une conférence de presse, et il l'avait répété par la suite, qu'il y a certains comportements qu'il jugeait voilà, qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'implique un club comme l'Olympique de Marseille en termes de compétitivité chaque jour à l'entraînement et encore plus en match. Donc Wahi, Brassier, Koné, je ne suis pas surpris au final que Marseille ait décidé de s'en séparer parce qu'on avait le sentiment en interne qu'il ne faisait pas assez d'efforts et qu'ils n'étaient pas au standing de ce que montrent les leaders de ce vestiaire.
Alors Longoria dit aussi qu'à Marseille il faut du temps hein, pour les nouveaux joueurs. Est-ce que Fabrice, il n'y a pas une forme de contradiction là-dedans de dire qu'il faut du temps pour les nouveaux joueurs et finalement de refourguer entre guillemets Wahi et ou Brassier aussi vite finalement? Est-ce qu'il ne fallait pas leur laisser plus de temps peut-être à l'un des deux? Je ne sais pas, hein, je pose la question. Mais c'est bizarre de dire qu'il faut du temps et de ne pas en donner finalement.
Ouais, c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal, mais sur Brassier, quand il revient en jeu contre Strasbourg, il fait un match plutôt correct, plutôt sobre. Et là, tu te dis, allez, pourquoi pas, c'est reparti. Sauf que la semaine d'après, il rechute à Nice. Et là, tu te rends compte que c'est plus possible et que malheureusement, les choses ne vont jamais réussir à s'arranger. D'autant que s'il fait ce genre de choses à l'extérieur, tu n'imagines même pas comment ça peut se passer au Vélodrome. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte assez rapidement que la fin de l'histoire avait sonné et que Brassier est sans doute un très bon joueur, mais qu'il n'est pas fait, qu'il n'était pas fait pour l'OM. En tout cas, pas à ce moment-là. En tout cas, parce que être joueur de l'OM, c'est pas seulement être bon. Sinon, ça saurait. Il faut avoir du caractère, il faut avoir de la personnalité, il faut avoir du cœur. Et Roberto De Zerbi le répète régulièrement lors de ses interventions en conférence de presse. Voilà, c'est pas seulement être bon techniquement et être bon sur le terrain. Il faut autre chose. Il faut quelque chose en plus, un petit truc en plus, comme on peut le voir régulièrement. Donc voilà. Et là, malheureusement, ces joueurs-là ne l'ont pas montré. Et Liwayi. Aussi, certains se disaient ah ben oui, mais il faut lui laisser sa chance jusqu'à la fin de la saison quand même, on sait jamais. Sauf qu'un Wahi, si jamais il continue sur le même credo que ce qu'il a fait lors de la première partie de saison, comment est-ce que tu le revends en juin? C'est peut-être compliqué et peut-être que tu perds plus d'argent que ce que tu as réussi à gagner là à l'heure actuelle avec Francfort. Donc voilà, c'est vrai qu'on aime bien que les joueurs restent, qu'ils s'identifient au maillot, etc., etc. Mais je pense que quand tu as identifié que c'était pas possible, je pense qu'il faut pas avoir d'état d'âme et passer à la suite, même si c'est vrai qu'on peut nous reprocher à nous des fois aussi d'annoncer ce genre de choses. Je me souviens, je m'étais fait quelques amis à l'OM quand j'avais dit que l'OM avait fixé une sorte d'ultimatum à Eli Wahi en fin d'année 2004, en disant que s'il se reprenait pas pour les trois derniers matchs, son départ allait sans doute sonner. On m'avait dit que j'aimais pas l'OM, etc., y compris en interne.
T'as jamais aimé l'OM,
voilà, de toute façon, tu peux le dire là, et personne n'écoute, t'es parisien en vrai, dis-le, t'es un supporter du PSG, gros.
On est entre nous.
Bien sûr.
Ouais, je suis un mec du sud-est qui regarde plus vers la capitale, quoi. Mais
ça, c'est les bobos bordelais, ça.
Galéjade mise à part, quoi. Voilà, il faut se rendre compte que malheureusement, des fois, il y a des constats d'échec, et je pense que ça, l'OM l'a très bien compris, et on l'a vu, même si ça peut paraître un peu abrupt, un peu brutal aussi. Et voilà, ils n'hésitent pas pour retomber vite sur leurs pattes, à se déjuger et à faire autre chose. Et plutôt que de dire que c'est un manque de continuité, c'est peut-être plus être clairvoyant et être conscient de ce qu'on a fait de bien et surtout de pas bien.
Mais Fabrice parlait d'identification, Nico. Je pense que c'est un mot important. Alors toi, tu le disais dans le sens où les joueurs doivent prendre la mesure un peu de ce qu'est l'OM. Mais l'identification des supporters, je pense qu'elle est importante. Donc c'est pour ça que
stabilité... Il y a les minots aussi, ils ont du mal à s'imposer. Là, enfin, tu le disais toi-même, Nadir, il va partir. Il y a toujours cette problématique liée aussi finalement aux jeunes formés au club qui ont du mal à percer.
Ce sera toujours comme ça. Ouais. Mais juste pour finir, le manque de stabilité, peut-être que ça a un impact là-dessus. Peut-être que les supporters ont parfois du mal à s'identifier. Et je pense que Marseille devra garder un petit peu plus de continuité, notamment avec les leaders, surtout s'il y a la Ligue des Champions. Concernant les jeunes, écoute, je parlais de Bakola, qui n'est pas parti, mais qui aura moins de temps de jeu. Nadir aussi peut-être. Alors, Enzo Sternal, finalement, même si Marseille a une priorité de rachat après son départ à Anderlecht, on ne saura jamais si en termes de, s'il pouvait vraiment franchir le cap et s'imposer comme la promesse qu'on nous vendait quand il était en équipe réserve ou en Gambardella surtout.
Il y a Soglo, Muguet.
Alors Soglo, Muguet, je suis un petit peu moins surpris. Moi, mon point d'interrogation, c'est Bamo Meïté.
Prêté
à Montpellier. Alors, on nous fait savoir que c'est plutôt pour rendre service à Jean-Louis Gasset et relancer le joueur dans un club plutôt familial. Ok, mais on m'en avait tellement dit du bien. Puis moi, j'aimais bien ce joueur. Je le trouvais plutôt performant et prometteur. Un Meïté dans sa continuité, je pense, aurait pu jouer un rôle dans cette défense à trois axiaux. Je suis un peu déçu, surpris, un peu triste pour lui aussi qu'il n'ait pas pu percer. Je connais pas exactement les raisons. Est-ce qu'il y a un peu d'extra sportif lié au pépin physique qu'il a eu? Il était aussi dans cette histoire en fin de saison. Il y avait eu des tirs sur des voitures au sortir de la commanderie. Bon, on nous avait dit qu'il avait été un petit peu marqué par tout ça, tout comme Faris Moumbania. Je sais pas si ça a joué, honnêtement, c'est juste une hypothèse. Mais en tout cas, les promesses de l'année dernière, et j'en parlais il y a assez longtemps avec Javier Ribalta qui était le directeur du foot quand il a été recruté, lui croyait énormément en Bamo Meïté, comme beaucoup à l'OM. Et là, tout d'un coup, plus de temps de jeu, un départ. Je ne sais pas si Fabrice, tu es d'accord, mais moi, c'est un joueur que j'espérais voir vraiment un peu plus évoluer, enfin jouer cette saison, et je croyais en lui.
Ouais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a eu que 24 minutes de temps de jeu, effectivement. D'autant qu'à un moment, il a été annoncé intransférable, et puis finalement, après, il a été transférable, et puis après, non, finalement, on le lâche plus. Donc, il y a eu un petit peu, c'est parti un petit peu dans tous les sens à son sujet. Mais c'est vrai, comme tu disais, les blessures, et je pense que ce qu'il a vécu l'année dernière au retour du Havre, après la dernière journée, une espèce de guet-apens involontaire où il s'est retrouvé, enfin involontaire parce qu'il n'était pas visé au départ. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur lui. Mais après, c'est vrai qu'à l'automne, on louait son investissement en interne. Tout le monde disait qu'il affichait un bon état d'esprit et qu'il pourrait avoir sa chance parce que De Zerbi le voyait quotidiennement aux entraînements. Mais non, écoutez, Roberto De Zerbi a fait d'autres choix. Et voilà, après, c'est l'OM, hein. Vous savez, on parle du manque de continuité, du manque d'identification. Mais c'est un peu l'histoire de ce club hein, qui est faite de ça. Et moi, juste pour conclure, j'ai un copain qui s'achète tous les ans les maillots de l'OM. Il me dit, moi, je ne fais jamais floquer de nom parce que je sais que tous les joueurs passent et qu'on ne sait jamais quand est-ce jusqu'à combien de temps ils vont rester. Donc, du coup, je reste toujours avec mon maillot vierge en nom.
Voilà, voilà, une belle anecdote pour finir et c'est symbolique. Merci beaucoup Fabrice Lamperti de La Provence. Tu reviens quand tu veux Fabrice, bisous à tout le monde.
Merci les gars, c'était un plaisir d'être avec vous.
Comme d'habitude, merci Flo Germain.
À bientôt les amis, au plaisir, ciao.
Et on remercie Jimmy Brown à la production, on remercie Vincent Cauchois à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.